arts et des lettres, l'auteur de Téméraire, Barb Van Loo, est avec vous ce matin. Bonjour Barb Van Loo.
Bonjour François.
Alors, Barb Van Loo, vous allez ce matin nous parler d'exhumation.
En effet, quelqu'un doit le faire et je commence avec un bout de chanson.
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Vous avez sans doute reconnu les feuilles mortes dans la version la plus connue, celle d'Yves Montand, une chanson d'amour. Et d'amour, Montand, il en a eu plus que sa part. Quand il venait chanter dans la Koningin Elisabeth Saal à Anvers, les femmes se présentaient à la réception de son hôtel et lui, d'après la légende, faisait tout au long de la nuit quelques allers-retours en ascenseur, toujours avide de nouveautés. La question, qui aurait le plaisir de se réveiller à côté de la grande star en l'entendant chanter?
C'est si bon.
Si bon, si bon. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment. Et la vie a séparé Montand et Androssard. L'une de ces liaisons, nombreuses liaisons. Androssard, des années après, prétendra que sa fille Aurore était la fille de Montand. Au cours de l'enquête, plus particulièrement le 11 mars 1998, il y a 26 ans aujourd'hui, on procède à l'exhumation. Et voilà qu'est déterré le thème de ma chronique, d'Yves Montand. Malgré la ressemblance apparente entre le chanteur et Aurore, le test ADN est formel, elle n'est pas sa fille. Une triste affaire. Quand on exhume quelqu'un, cher François, c'est pourtant souvent pour des raisons honorifiques. Une panthéonisation, par exemple, ne s'avère possible que quand le corps du héros ou de l'héroïne de France est arraché à sa tombe. C'est une affaire d'État, une affaire d'honneur, une question d'applaudissements nationaux et de gloire éternelle. Sauf pour le premier qui, en 1791, entre au Panthéon. Il s'agit de Mirabeau, qui 3 ans plus tard en sera retiré. Au grand traître, la patrie n'est pas reconnaissante. Même si aujourd'hui, des spécialistes de la Révolution plaident justement pour la réintégration de Mirabeau au Panthéon, ce qui lui vaudra finalement une exhumation, car la Révolution a été déposée tout de suite après sa mort dans le mausolée français. Moi, je me souviens très bien de ma rencontre avec le fossoyeur de Villers-Cotterêts qui devait exhumer en 2002 un certain Alexandre Dumas pour sa panthéonisation à lui. Il était fâché, le fossoyeur, il était triste, il disait que les Parisiens prenaient tout et ne donnaient rien. Oui, des sous pour une nouvelle statue de l'écrivain au centre de la ville. Et il en avait surtout marre de l'hypocrisie du vocabulaire. On dit exhumer parce que ça sent bon. Déterré, ça sent le pourri. Et panthéonisé, ça, monsieur, ça sent la France. Dorénavant, ce fossoyeur inconsolable allait devoir s'occuper d'une tombe vide. Ce qui me fait penser aux touristes mal informés au cimetière de Montmartre, en extase littéraire, citant les bineurs de Germinal s'agitant sous terre devant la tombe vide d'Émile Zola, qui lui aussi se repose au Panthéon.
Oui, très bien, cher Barth, mais dans l'actualité, on emploie « exhumer » dans bien d'autres sens.
En effet, François, aujourd'hui, on exhume pas seulement des corps honorables et honorés, mais aussi des secrets déshonorants. Le passé plus que douteux de Patrick Poivre d'Arvor, douteux mais bien connu par beaucoup de journalistes et de patrons de médias, les amours illicites de Gabriel Matzneff, illicite certes, mais à l'époque très approuvé par l'élite littéraire française, l'attitude insupportable de Gérard Depardieu envers de jeunes actrices au vu et au su de tout le monde sur le plateau. Au sens littéral ou au sens figuré, exhumer, c'est toujours déterrer toute une époque. L'affaire Dreyfus avec Zola, en 1908, lors de sa panthéonisation, les partis nationalistes crièrent au scandale. La loyauté de 3 mousquetaires et d'un seul fossoyeur avec Dumas. La complicité dégueulasse d'une certaine époque avec Matzneff. L'aveuglement d'une génération avec Depardieu. La résistance admirable du groupe Manouchian. Le donjuanisme d'Yves Montand. Et celui de Claude François. Parce que parlons pour finir aussi de Clo-Clo, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire de sa mort. le 11 mars 1978. Clo-Clo, qu'on n'a pas eu besoin d'exhumer pour découvrir ses amours tout aussi interdites que celles de Mats Neff, et pour découvrir sa fille cachée à lui. Apparemment, il a suffi d'un mégot, d'un seul mégot, pour établir le lien de parenté. Les mégots morts se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai rien oublié. Les mégots morts s'exhument à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi.
Exhumé donc à travers l'histoire récente et moins récente, c'était votre séquence toujours aussi poétique, Barvando. Merci beaucoup d'avoir été avec